I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump, and I approve this message.
USA 2020.
USA 2020.
Keep America great.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
I don't look at this in terms of the way he does.
Europe 1, special edition.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de d'échanges et de débats. Et cette fois, ça y est, nous y sommes. C'est peut-être l'heure du dénouement aux États-Unis. Joe Biden a pris l'avantage, les dernières projections le donneraient gagnant. Rien d'officiel pour l'instant, mais cela pourrait se confirmer dans les heures qui viennent. Tout dépend des derniers résultats en Pennsylvanie notamment, qui compte 20 grands électeurs. Il en est à 253, Joe Biden, pour une majorité à 270. Donald Trump, lui, dénonce toujours des fraudes. Nancy Pelosi, elle, troisième personnage de l'État, déclare que Biden, ça y est élu. Édition spéciale donc ce soir, avec les derniers instants de cette course folle pour la Maison Blanche, avec nos invités et nos envoyés spéciaux. Et à 18h20, notre invité, justement, ce sera l'ancienne conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche, Léa Pizarre, en direct de New York. Voilà pour le programme. D'abord, les dernières infos américaines, évidemment, avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
This morning it is clear that the Biden-Harris ticket will win the White House.
Joe Biden n'a jamais été aussi près de la Maison Blanche. La chef démocrate du Congrès, vous venez de l'entendre, Nancy Pelosi en est sûre, il est le futur président des États-Unis.
Alors pour l'annonce officielle, il faudra encore attendre, mais le candidat démocrate est en tête dans les états clés où se joue l'élection.
Nos correspondants, nos envoyés spéciaux à Washington, à New York, en Pennsylvanie, sont dans les starting blocks pour nous faire vivre ce soir la fin de ce suspense qui nous tient en haleine depuis trois jours maintenant.
On décryptera ensemble le décompte des voix, on écoutera les partisans des deux camps, bien sûr, ceux de Donald Trump, qui, à l'image de leur candidat, ne veulent rien lâcher.
Et ceux de Biden, qui s'apprêtent à sabrer le champagne. Et puis, signe que les choses sont bel et bien en train de s'accélérer en ce moment, la sécurité autour de Joe Biden a été renforcée.
Et on fera connaissance un peu plus en détail avec celui qui va donc, pendant 4 ans, sans doute, être à la tête des États-Unis.
On verra aussi que la période de transition s'annonce longue et compliquée. Le président sortant va multiplier les recours avec son armée d'avocats.
Et puis, quel chantier attend le futur président en pleine crise sanitaire dans une Amérique plus divisée que jamais? Emmanuel Duteil et Didier François sont également avec nous dans ce studio. La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Bonsoir Anissa.
Bonsoir.
Attention aux fortes pluies demain. Et ça n'est pas aux États-Unis, mais c'est en France.
Non, c'est bel et bien chez nous puisqu'une perturbation arrive par le sud-ouest. Demain, le temps sera donc agité. Le soleil reste bien présent sur le quart nord-est. Les températures seront plus douces demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le conditionnel est donc toujours de mise ce soir, en tout cas pour nous. Vous l'avez compris, on va rester prudent, même s'il y a de grandes chances pour que la victoire de Joe Biden soit confirmée d'ici peu.
Oui, en tout cas, il y en a une qui n'en doute pas, c'est la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, troisième personnage de l'État. Elle vient de s'exprimer.
Ce matin, il apparaît évident que l'équipe Biden-Harris va gagner la Maison Blanche. J'aurais tellement aimé que l'on ne porte pas ses masques pour que vous puissiez voir comme je suis heureuse de venir me présenter à vous aujourd'hui avec Joe Biden qui reçoit ce formidable mandat. C'est un jour heureux pour notre pays parce que Joe Biden est un rassembleur. Il est déterminé à réunir les gens. Il respecte tous les points de vue. Et comme il l'a dit, je candidate en tant que démocrate, je gouvernerai comme un président pour tout le monde, qu'on ait voté pour moi ou non. Donc je peux officiellement vous dire que je suis ravie par le dénouement qui est imminent et aussi personnellement enchantée par la qualité et la dimension du mandat que va accomplir Joe Biden.
Oui, pourtant elle s'avance, Nancy Pelosi, car pour l'instant, officiellement, rien n'est fait. La présidente, donc démocrate de la Chambre des représentants.
Victoire qui devrait être confirmée dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. On va quand même, comme toujours, prendre du recul et des précautions. Même si cette fois, Xavier Yvon, vous êtes en direct de New York, même si cette fois, l'issue de l'élection semble inéluctable.
Oui, c'est vrai. Depuis que Joe Biden a pris l'avantage sur Donald Trump en Pennsylvanie dans le dépouillement, il y a environ 3 heures, on ne voit plus comment le président peut rattraper le démocrate. Or, la Pennsylvanie, c'est la dernière pièce du puzzle. En remportant ses 20 grands électeurs, Joe Biden dépassera le seuil fatidique des 270 et deviendra le 46e président des États-Unis. Les trois grandes chaînes ABC, NBC et CBS ont basculé en édition spéciale. Pour l'instant, aucun grand média n'a encore annoncé définitivement la victoire de Joe Biden, notamment l'agence Associated Press qui fait référence. Tout le monde reste très prudent, même s'il n'y a plus vraiment de doute. La chaîne NBC dit attendre que l'écart entre Biden et Trump atteigne le seuil au-delà duquel il n'y a pas de recomptage automatique en Pennsylvanie.
À propos de recomptage, Xavier, la Géorgie annonce qu'elle va, elle, recompter justement les bulletins de vote car l'écart est trop serré.
Oui, c'est vrai, mais ça ne changera rien parce que Joe Biden n'a pas besoin de la Géorgie pour gagner. La Pennsylvanie suffit. D'ailleurs, le camp Trump est bien conscient qu'on touche à la fin. Il a envoyé un communiqué tout à l'heure clamant, je cite, que cette élection n'était pas terminée. Ce qui donne un peu une idée de l'état d'esprit à la Maison-Blanche en ce moment. Donald Trump n'est pas prêt à concéder sa défaite. Pourtant, c'est comme ça que ça marche hein, d'habitude dans une élection normale, même si là, voilà, on peut difficilement la qualifier de normale. Le perdant appelle le gagnant pour le féliciter et le vainqueur fait ensuite une déclaration publique. Comment ça va se passer cette fois-là, c'est difficile de le dire. Un porte-parole de la campagne Biden a déclaré que si Trump refuse de concéder la défaite, alors je cite, « le gouvernement américain est tout à fait capable d'escorter les intrus hors de la Maison-Blanche ». Autre signe qui ne trompe pas, le Secret Service qui protège, vous savez, les présidents a renforcé la sécurité autour de Joe Biden qui est chez lui à Wilmington dans le Delaware. Survol de l'espace aérien interdit au-dessus de sa maison où Joe Biden est en ce moment en train de préparer la suite. Et il faut imaginer ce qui se passe dans sa tête en ce moment. À bientôt 78 ans, Joe Biden est sorti de sa semi-retraite il y a un an et demi pour sauver l'âme de la nation face à Trump, comme il l'a répété tout au long de la campagne. Joe Biden s'apprête à retrouver la Maison-Blanche où il a servi 8 années comme vice-président de Barack Obama. Il ne s'était pas lancé dans sa succession en 2016, trop affecté par la mort de son fils aîné d'un cancer foudroyant. On pensait sa carrière terminée. C'est donc un revenant qui est sur le point d'accéder au poste suprême à sa troisième tentative pour devenir le 46e président des États-Unis.
Merci Xavier Yvon et vous restez évidemment avec nous tout au long de cette foire exceptionnelle jusqu'à 20h, correspondant permanent d'Europe 1 à New York.
Et on va prendre maintenant la direction de Washington, rejoindre Mathieu Bock. Mathieu, vous êtes devant la Maison-Blanche où les supporters démocrates y croient plus que jamais. Pour eux, c'est fait. Hein.
Ah ouais, ils ont déjà commencé à faire la fête, ils ont monté la musique, ils dansent sur la route en agitant des drapeaux américains. Les automobilistes leur répondent en klaxonnant. Wendy, par exemple, habite dans la banlieue de Washington. Elle sait que les résultats ne sont pas encore officiels, mais pour elle, c'est tout comme.
Ça sent la victoire, on ressent la victoire. J'ai vu aux infos que ce qu'il se passe ici à Washington montre que la transition du pouvoir est en train d'avoir lieu. Les services de protection ont été renforcés autour de la maison de Joe Biden dans le Delaware. L'espace aérien est fermé. C'est ce qu'on fait quand le nouveau président est élu. Donc tout est en train de se mettre en place. On attend juste l'annonce officielle, mais les chiffres sont clairs.
Marianne et son mari aussi sont venus vivre ce moment devant la Maison Blanche. Ils attendent avec impatience que cela devienne officiel.
On s'est levé à 4h du matin pour regarder la télé, les sites, essayer d'avoir toutes les infos possibles. On a beaucoup d'espoir, on y croit, on est excité, même si on attend les résultats définitifs. On habite à 1h d'ici, mais on est venu exprès à Washington pour vivre ça. On espère que ce sera un grand moment.
Mais Marianne rajoute qu'elle n'a pas envie de célébrer pour le moment cette victoire annoncée sur les réseaux sociaux, car la tension est encore trop vive, dit-elle, avec ses amis qui ont voté Donald Trump.
Merci beaucoup Mathieu Bock en direct de Washington pour Europe 1.
Autre ambiance, forcément Isabelle, hein, du côté des supporters de Donald Trump.
Et oui, forcément. Théo Manval, on vous retrouve, vous êtes quant à vous à New Staunton, c'est en Pennsylvanie, aux côtés de partisans du président sortant cette fois, hein, qui commence bien sûr à sentir le vent de la défaite.
Et oui, vous allez l'entendre, elle est très difficile à admettre. Il faut bien comprendre où on est hein. Ici, l'ouest de la Pennsylvanie, ses usines d'acier, ses forages gaziers, ses entreprises de transport routier. C'est l'Amérique rouge, Trump, celle qu'on a vue se dessiner massivement au matin du 4 novembre avec les premiers résultats. Donc Mike, aujourd'hui, chauffeur de camion justement, ne conçoit pas que ces résultats puissent s'être inversés deux jours après.
C'est impossible, impossible qu'il ait gagné la Pennsylvanie. C'est truqué à 110%. Si vous faites 60 km dans n'importe quelle direction ici, comptez les panneaux Biden et les panneaux Trump. C'est un raz-de-marée Trump, un raz-de-marée. Je travaille avec 67 personnes ici. Et une seule a voté pour Biden. Tous les autres ont voté Trump. Plus de gens sont derrière Trump parce qu'ils savent ce que Biden va nous amener.
C'est-à-dire du chômage, hein, c'est ce qu'il redoute, parce que Joe Biden a répété qu'il voulait sortir des énergies fossiles. Il a redit hier encore qu'il rejoindrait les accords de Paris s'il était élu. C'est vraiment vécu comme une menace ici. Et effectivement, dans la rue, dans le lotissement où je me trouve, tout est rempli encore de drapeaux Trump. Et beaucoup de monde reste suspendu au possible recours ou recompte électoraux dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup, Théo Manval. Vous étiez donc en direct de cette ville de New Staunton, en Pennsylvanie, pour Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
18h11, c'est la suite de votre édition spéciale US. Le dépouillement continue dans les États clés, mais cette fois, a priori, on ne voit pas comment Donald Trump pourrait rattraper son retard. Sauf immense surprise, Joe Biden devrait donc être le 46e président des États-Unis.
Et alors maintenant que les choses se précisent, Julien, on a envie de faire davantage connaissance avec l'homme qui devrait être à la tête de la première puissance économique mondiale, même si ça n'est pas un inconnu, hein, Pauline Jacquot, puisqu'il a été, on s'en souvient, vice-président de Barack Obama.
Oui, homme d'expérience. Du Parti démocrate, Joe Biden est choisi par le président des États-Unis deux fois pour ses deux mandats. Compagnon fidèle, il occupe pendant 8 ans une place de choix, de responsabilité aux côtés de Barack Obama.
Joe Biden a ce que beaucoup d'autres prétendants n'ont pas. C'est un homme d'État qui veut garder l'Amérique forte. Donc laissez-moi vous présenter le prochain président, le prochain vice-président des États-Unis, Joe Biden.
Joe Biden!
Mais Joe Biden aura surtout été sénateur du Delaware. C'est l'immense partie de sa carrière politique. Il occupera ce poste pendant 36 ans. Lui, le fils d'une famille de classe ouvrière de Pennsylvanie. Élu à 29 ans, il prononcera bien sûr de nombreux discours au Sénat, dont l'un très marquant contre l'apartheid en Afrique du Sud en 86 face à l'administration Reagan.
On a choisi un camp en Afrique du Sud. C'est celui de ces gens qui sont opprimés par ce terrible régime blanc. Nous avons cette priorité et les Sud-Africains sont en majorité noirs. Ils sont réprimés et nous restons assis, là, avec la même rhétorique.
Biden, un homme qui peut compter sur une qualité très largement reconnue, son empathie. Il a surmonté des drames deux fois. 72, sa femme et sa fille meurent à quelques jours de Noël, accident de voiture. Et puis 2015, son fils, Beau Biden, censé être l'héritier politique, décède d'un cancer du cerveau. Joe Biden, 77 ans aujourd'hui, a aussi surmonté un handicap, le bégaiement. Il en a d'ailleurs parlé à un adolescent bègue pendant la campagne présidentielle, moment qui avait ému l'Amérique.
Ne laisse pas les autres te réduire à ça. Tu es aussi intelligent qu'eux. Tu l'es vraiment. Quand j'ai commencé, je parlais comme ça. Ça demande beaucoup de pratique. Mais cela va changer, mon chéri. Je te promets, cela va changer.
C'est donc la troisième course à la présidentielle pour Joe Biden, 88, 2008 et puis cette année, le centriste catholique très ouvert sur les questions de l'avortement et de la contraception. Biden a proposé tout au long de cette campagne des idées plus progressistes, notamment pour séduire les jeunes. Joe Biden qui veut surtout refaire de l'Amérique le phare de la démocratie.
Merci Pauline Jacquot. Alors on le rappelle une nouvelle fois, la victoire n'est pas encore acquise hein, à l'instant T pour Joe Biden. On va rejoindre tout de suite Sonia Dridi qui est à Washington. Alors Sonia, même s'il devait être élu d'ici quelques heures, Joe Biden va encore devoir affronter des épreuves et plusieurs étapes hein, avant de rejoindre la Maison-Blanche.
Si Joe Biden est élu, la suite s'annonce compliquée car Donald Trump n'est pas prêt à concéder la victoire, c'est ce qu'il a déclaré à des proches. Selon les médias américains, certains conseillers lui demandent de lâcher prise alors que d'autres l'encouragent à se battre. Le président et son armée d'avocats ont déjà demandé le recomptage des votes dans plusieurs États clés. Chaque État a ses règles en la matière. Certains ont des délais pour le recomptage, d'autres non. Mais selon les observateurs, s'il n'y a pas de preuve de fraude, il y a très peu de chances que cela change l'issue du vote. Et si le ticket Biden-Harris remporte à la fois le vote populaire et celui du collège électoral, il sera plus difficile de convaincre la Cour suprême d'entendre le camp Trump. Le 14 décembre, le collège électoral de chaque État doit se réunir pour officiellement désigner le président et le vice-président des États-Unis. Puis le 20 janvier, ils seront officiellement investis. Un porte-parole de l'équipe Biden a confié au New York Times qu'en cas de victoire de Joe Biden, si Donald Trump refuse de concéder la défaite, alors les autorités américaines pourraient l'escorter en dehors de la Maison-Blanche.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington.
Oui, et puis Joe Biden qui va donc, si tout cela se confirme, prendre la tête, on en parle depuis plusieurs jours, d'une Amérique plus divisée que jamais.
Une Amérique qui souffre de la crise sanitaire et qui encaisse un choc économique historique, comme la plupart des grandes puissances d'ailleurs. Alors Emmanuel Duteil, quel est justement le programme économique de Biden ?
Eh bien, Joe Biden mise sur la transition climatique et sur la défense de la classe moyenne. On va commencer par la classe moyenne. Il veut augmenter les dépenses en faveur du logement, de la santé ou encore de l'éducation. Il veut, par exemple, rénover les écoles et alléger la dette des étudiants américains. Une partie de ces dépenses nouvelles seront financées par des hausses d'impôts sur les plus riches et sur les entreprises. Sur la transition écologique, cette fois, Joe Biden a promis dès le début de sa campagne de rejoindre l'accord de Paris dans un pays où la voiture est reine. Il promet de se détourner progressivement de l'industrie pétrolière. Il promet aussi d'investir fortement dans les énergies vertes et de renforcer les efforts en faveur de l'environnement. Il est très attendu également dans la lutte contre le Covid. Les Américains réclament un énorme plan de relance. Là-bas aussi, la croissance s'est effondrée et l'épidémie repart de plus belle. Sur le volet international, il devrait normaliser les relations avec l'Union européenne et donc en partie arrêter la guerre des taxes entre les deux blocs. Avec la Chine, ça restera tendu, mais les discussions pourraient être moins explosives. Mais tout cela n'est qu'un projet. Pour résumer, on pourrait dire qu'aux États-Unis, le président propose et le Congrès dispose. S'il n'arrive pas à obtenir une majorité républicaine claire au Sénat, il pourrait avoir beaucoup de mal à appliquer ce programme.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et on se tourne maintenant vers vous, Didier François. On vient de voir que pour ce qui est de la politique intérieure, ça s'annonce compliqué pour Biden et c'est pas beaucoup mieux sur la scène internationale.
Non, mais première mesure de politique étrangère, ce serait un retour extrêmement rapide des États-Unis sur l'accord de Paris sur le climat. C'est une promesse de Joe Biden qui a été réitéré il y a deux jours, mercredi au lendemain du vote, parce que le 4 novembre, c'était le jour de la sortie américaine du traité après sa dénonciation par Donald Trump en 2016. Et le candidat démocrate a même fixé un délai pour cette réintégration, 77 jours, donc dès son entrée en fonction. On voit bien une volonté de marquer les esprits par un geste symbolique fort qui vise à démontrer que les États-Unis sont de retour dans l'arène diplomatique multilatérale, avec un strict respect de leurs engagements internationaux. Et cela se fait d'autant plus facilement que l'effondrement des cours du pétrole oblige les Américains à repenser leur modèle énergétique. C'est ce que nous expliquait Emmanuel Duteil. Et donc, ils vont se lancer dans une économie plus verte. Donc, ça sera à la fois un symbole diplomatique, mais qui peut s'expliquer facilement à ses électeurs des grands bassins industriels sur le thème de la défense de l'emploi. Alors, l'autre sujet qui, lui, est beaucoup plus stratégique et bien plus complexe, c'est l'avenir de l'accord sur le désarmement nucléaire iranien, lui aussi dénoncé avec fracas par Donald Trump. Et là, deux options s'offrent à Joe Biden. Soit un retour dans le mécanisme de levée des sanctions économiques contre une réduction du nombre des centrifugeuses et puis du stock de matières fissiles par l'Iran, ou bien alors une tentative de renégocier les termes de l'accord qui n'était prévu que pour une période de 10 ans et donc qui a été un petit peu entamé. Alors je ne suis pas certain que pour l'instant il ait fait son choix. Il faudra d'abord s'engager dans de vraies consultations avec l'ensemble de ses alliés avant de pouvoir trancher. Mais c'est justement ça qui va vraiment changer, c'est qu'on va avoir une rupture avec Donald Trump par ce retour aux échanges diplomatiques normaux plutôt que d'avoir ces prises de décisions individuelles et unilatérales.
Merci beaucoup Didier François.
Bien, et avant de poursuivre cette édition spéciale US, on n'oublie pas Isabelle, cet hommage qui sera donc rendu demain à Nice aux trois victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame.
Oui, et c'est une information qu'Europe 1 vous révélait à la mi-journée. Nicolas Sarkozy assistera à cet hommage aux côtés de Jean Castex. Les autres anciens chefs d'État ont également été conviés par la ville de Nice. François Hollande, notamment, qui a dû décliner en raison d'une obligation familiale.
Merci Isabelle, vous revenez tout à l'heure à 19h pour le grand journal de l'info spécial US, évidemment, ce soir jusqu'à 20h. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Oui, avec Anissa, c'est pas franchement une bonne nouvelle ce soir, parce qu'il y a une perturbation qui arrive demain. Vous m'aviez dit l'inverse hier, pardon.
Non mais dans la globalité, il va faire beau. Mais sur le sud-ouest, nous avons cette perturbation effectivement du sud de l'Aquitaine, sur les Pyrénées. Nous aurons des pluies dès demain matin. Dans l'après-midi, la perturbation, elle avance pour toucher la façade Atlantique, le pourtour méditerranéen et le Limousin, avec au programme de la pluie, de fortes rafales de vent. La tramontane souffle fort demain, mais il va surtout pleuvoir sur les Cévennes. Ailleurs, plus au nord, sur les Hauts-de-France, le Grand Est, les Alpes, le Val-de-Saône, la région parisienne, la Normandie, et bien là, après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'impose et
bon,
il fera
beau. Ça va pour cette fois.
Les températures gagnent quelques degrés demain, avec 5 à 15 sur l'ensemble du pays. Le matin, nous aurons toujours des gelées blanches dans le nord-est, et 11 à 21 degrés l'après-midi.
Formidable! Vous voyez quand vous voulez. Merci Anissa, vous revenez quand vous voulez
pour
nous annoncer des bonnes nouvelles comme ça.
Europe 1.
Europe 1 inside the American election.
Édition spéciale présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
Avec ce soir notre première invitée à 18h20 de cette édition spéciale US, elle est docteure en sciences politiques et surtout ancienne conseillère de Bill Clinton lorsqu'il était président. Bonsoir Léa Pizarre.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous depuis New York. What mess, quel bazar. Est-ce que ce soir la victoire de Joe Biden est assurée selon vous? Peut-on le dire avec certitude?
On ne peut rien dire avec certitude pour l'instant, mais ça semble de mieux en mieux parti pour lui. On ne voit pas comment Donald Trump peut récupérer les votes qui lui manquent.
Oui.
Surtout parce que on est encore en train de dépouiller des votes qui ont été envoyés par courrier. Et vous vous souvenez que Trump hurlait à qui voulait l'entendre et à qui ne voulait pas l'entendre que il ne fallait pas voter par courrier parce que c'était une source de fraude. Donc ses soutiens n'ont pas voulu voter par courrier, ce qui explique pourquoi la majorité des votes qui sont en train d'être dépouillés maintenant favorisent Joe Biden.
Oui, c'est ça. Il s'est fait prendre à son propre piège d'une certaine manière, puisqu'il a incité ses soutiens à aller voter physiquement, ce qui a tronqué le rapport de force dans les premières projections de résultats.
Absolument. Et ça, on s'y attendait quand même. On a beaucoup parlé du risque d'un mirage rouge. Donc que la perception initiale serait que les républicains avaient plus de votes, mais qu'au fur et à mesure que l'on dépouillait des bulletins envoyés à distance, ça oui. favoriserait le démocrate. Et rappelons ce qu'en France, vous n'oubliez pas que nous sommes en pleine crise sanitaire et que les gens ont été un peu frileux, n'ont pas voulu se rendre aux urnes. Et on préférait voter par courrier à distance, à l'avance, ce qui a vraiment changé la grille de lecture et quasiment le mode de scrutin.
Alors ce soir, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants et démocrate, troisième personnage de l'État, a appelé Joe Biden le président élu. Ça fait partie du petit jeu politique, ça ?
Ce n'est pas un petit jeu politique, c'est une probabilité, mais il y a aussi un aspect de communication et de perception. Il faut poser ses jalons et ne pas donner à Trump la possibilité de clamer victoire alors qu'il n'a pas gagné, et vraiment mettre les choses en place et préparer le peuple américain pour ce qui est quasiment inévitable, oui. c'est-à-dire une présidence légitime de Joe Biden.
Léa Pizarre, c'est dans l'État de la Pennsylvanie que tout se joue. S'il est en tête, Joe Biden, c'est gagné?
S'il gagne la Pennsylvanie, c'est mathématiquement gagné. Dans le camp démocrate, on préférerait qu'il prenne encore un ou deux États pour que les avocats de Trump ne puissent pas vraiment focaliser un procès sur la Pennsylvanie et en faire une aire de bataille.
Oui.
Il aura gagné et il aura gagné. Je veux vraiment insister, il n'y a pas eu de fraude. Il ne pourra pas démontrer de fraude. Trump cherchera à accuser, à faire des procès. C'est ce qu'il fait.
Oui, oui.
C'est vraiment ce qu'il a toujours fait dans ses affaires et dans tout ce qu'il fait. Donc c'est dans sa nature, c'est normal. Il se débat, c'est l'énergie du désespoir. Il n'y a pas eu de fraude. C'est une élection légitime oui. que Biden est en train de gagner dans le vote électoral et dans le vote national.
Mais tout de même, Léa Pizarre, plusieurs recours ont été déposés par les équipes de Donald Trump. Un recomptage des voix a déjà été décidé dans le Wisconsin, où Joe Biden l'a emporté de seulement 20 800 voix sur plus de 3 millions de votants tout de même. Est-ce que tous ces recours peuvent changer l'issue du résultat ?
Il est fort improbable qu'ils changent l'issue du résultat. On parle maintenant d'un recomptage en Géorgie. Vous savez, ça fait aussi partie du système démocratique. Si le score est très très serré, il est tout à fait normal et légitime de recompter et que les deux côtés puissent demander un recomptage. Si c'est approprié, ce sera fait.
Ça ne changera pas l'issue du scrutin.
C'est fort fort improbable. Ouais, ouais. En général, les recomptages confirment les scores.
Léa Pizarre,
quand
vous
on
avez...
a compté oui. tous les bulletins.
Oui. Vous avez été, Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton lorsqu'il était président. Vous connaissez cette coulisse de la Maison-Blanche, du bureau ovale. Vous connaissez la personnalité éruptive de Donald Trump. À votre avis, qu'est-ce qui se dit en ce moment autour de Donald Trump dans le bureau ovale où il est enfermé?
Je pense qu'il doit être enfermé un peu comme un lion en cage. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'est vraiment entouré que des gens très très proches de lui.
Oui.
Ce qui est potentiellement dangereux car c'est eux qui ont tendance, notamment ses enfants, sa famille, à l'encourager à faire de la surenchère. Mmh. On ne sait pas ce qu'il fera. Moi, quand je l'ai vu à la télévision hier, lors de ce spectacle vraiment désolant, moi j'ai vu quelqu'un de déconfit, de découragé. Je ne sais pas s'il a encore la niaque pour se battre. Oui. Je pense qu'il la retrouvera et qu'il se débattra. Mais il lui reste très très peu de possibilités.
Fox News disait, j'espère
que quelqu'un lui dit, Monsieur le Président, faites une sortie honorable. Oui. Sortez comme un président.
Fox News disait tout à l'heure justement, Léa Pizarre, que selon leurs informations, les proches avocats, certains proches avocats de Donald Trump lui auraient conseillé de reconnaître sa défaite.
Mais l'histoire se souviendra de cela, de sa manière de quitter le pouvoir. Donc qu'il reconnaisse la défaite, qu'il sorte par la grande porte, qu'il reconnaisse les institutions démocratiques américaines et qu'il permette au pays d'avancer et à lui-même d'avoir une vie post-présidentielle.
Oui. Mais que se passera-t-il s'il ne veut pas partir? J'imagine que c'est prévu par la Constitution américaine, mais concrètement, comment ça va se dérouler?
C'est très simple. Le 20 janvier, à midi, le prochain président sera intronisé. Et à ce moment-là, si le sortant a perdu, il s'en va.
Il est obligé de quitter la Maison-Blanche, c'est comme ça.
Il est absolument obligé de quitter la Maison-Blanche.
Oui. Dernière question, si Joe Biden l'emporte, si cela se confirme, est-ce qu'il parviendra à gouverner s'il n'a pas la majorité au Sénat? Ce qui semble se dessiner, est-ce que ça limitera la marge de manœuvre des démocrates?
S'il n'a pas le Sénat, il aura évidemment moins de marge de manœuvre que s'il l'avait, mais c'est quelqu'un qui sait gouverner au centre, c'est quelqu'un qui a passé de nombreuses années au Sénat, qui sait parler au Parti républicain. Et les Républicains feront également le calcul qu'ils ont peut-être intérêt à jouer le jeu, à calmer l'ambiance politique qui est vraiment explosive aux États-Unis et à se préparer eux-mêmes pour les prochaines élections en faisant peut-être meilleure impression sur le peuple américain.
Bien, merci infiniment Léa Pizarre d'avoir été avec nous et on vous retrouve tout à l'heure pour le grand débat à 19h15.
Europe won at the American election.
Europe Soir, le 18-20.
Europe won live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine.
Et Julien Bugier.
Oui, 18h33, on est toujours ensemble jusqu'à 20h pour une édition spéciale US avec le débat des grandes voix. Guillaume Tabar ce soir autour de la table. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, Ivan Trippenbach. Bonsoir Ivan.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à l'opinion. Yannick Mireur est également avec nous. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Politologue et spécialiste des États-Unis. Et puis Xavier Yvon, toujours avec nous en direct de New York, correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Xavier, cette information, donc, je le disais juste avant la pause, de dernière minute, on apprend à l'instant, c'est en breaking news sur les chaînes américaines, que Biden devrait s'exprimer ce soir.
Oui, exactement. Ça vient de tomber, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On sait juste qu'il va parler ce soir. Il est en ce moment dans sa maison à Wilmington, dans le Delaware, où il est en train certainement de préparer son allocution. Vous savez ce qui se passe normalement dans une élection américaine normal, hein, c'est que le perdant, quand il a acquis, qu'il a perdu, appelle le vainqueur et le vainqueur va faire une déclaration publique à la télévision. Il n'est pas du tout sûr que ce soir, quand Joe Biden va s'exprimer, Donald Trump aura appelé son concurrent pour le féliciter et concéder sa défaite. Mais il y a un signe qui ne trompe pas autour de la maison de Joe Biden,
oui.
C'est que la sécurité a été renforcée par le Secret Service, vous savez, c'est le service de protection notamment des présidents américains, et le survol de l'espace aérien de la maison de Joe Biden à Wilmington est interdit.
Bien, vous restez avec nous, Xavier Yvon, en direct toujours de New York. Yannick Mireur, on imagine mal ce soir le président Trump, vu le contexte des derniers instants, annoncer sa défaite. Et pourtant, Joe Biden va parler.
D'autant qu'à mesure que les dernières heures que nous avons vécues, et les dernières 24 heures, mais surtout les dernières heures aussi, montrent que le chemin pour Donald Trump est quand même de plus en plus étroit.
Hein. Oui.
Bon, on s'était parlé il y a quelque temps et... les choses semblaient lui être favorables. En 24 heures, il y a eu quelque chose d'absolument phénoménal qui surprend les Américains eux-mêmes et même ceux qui sont dans le milieu politique sur cette remontée, comme on dit en français, de Joe Biden.
Donc mais ce qui a changé le rapport de force, c'est important de le dire pour nos auditeurs, on l'évoquait tout à l'heure avec mon invité à 18h20, c'est que Donald Trump a incité ses soutiens à aller voter physiquement, alors que les soutiens démocrates de Joe Biden ont plutôt voté par anticipation, ce qui a tronqué le rapport de force dans les premières projections qui ont été données le lendemain du scrutin.
Oui, et en même temps, au moins cette prédiction-là, cette supposition-là, oui, s'est révélée parfaitement juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait beaucoup plus que ce qu'on pouvait même, on peut dire massivement, une tendance pro-Biden dans les votes par correspondance, c'est-à-dire les votes postés par les électeurs donc avant le jour du 3 novembre.
Ivan Trippenbach, a priori ce soir, donc, restons prudents, mais c'est plutôt bien parti pour Joe Biden, qui pourrait donc devenir le 46e président des États-Unis. Est-ce que Donald Trump, selon vous, va s'accrocher au pouvoir coûte que coûte? On sait que de nombreux recours ont été déjà lancés par ses avocats, avec une première victoire, le recomptage des voix dans le Wisconsin, même si, a priori, ça ne devrait pas changer l'équilibre des forces.
Oui, tout à fait. Tout dépend de la personnalité de Donald Trump. En réalité, il est lâché progressivement par les leaders de son propre parti. Il est très isolé.
Pas encore complètement, quand
pas
même.
Pas encore complètement, tout à fait, mais c'est en cours. Tout va se focaliser, effectivement, sur sa réaction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a commis une erreur lors des jours précédents, c'est d'appeler à arrêter de compter les voix, oui, ce qui est parfaitement antidémocratique, ce qui est très surprenant, y compris aux États-Unis. Hein. Mmh. Alors que maintenant, il insiste effectivement sur l'aspect judiciaire et sur la contestation des votes qu'il appelle illégaux, en fait, et donc les fraudes. Voilà, on va attendre de voir comment il réagit, mais effectivement, la victoire de Joe Biden sera consacrée quand Donald Trump aura concédé sa défaite.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose de complètement fou. Il y a encore quelques minutes, tout à l'heure, Donald Trump, pour la première fois, a pris la parole dans la salle de presse de la Maison-Blanche, avec sa porte-parole à ses côtés. C'est la première fois, Guillaume Tabar, qu'on le voyait depuis le scrutin. Et il a continué à dire que le scrutin était truqué, qu'il allait engager un certain nombre de recours pour contester l'issue du scrutin. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président élu met ainsi en cause la réalité d'un scrutin démocratique.
Oui, donc il faut bien distinguer la contestation sur des chiffres et la contestation politique, parce que la contestation sur des chiffres, d'abord, elle peut être naturelle lorsqu'un résultat peut être serré ou lorsqu'il y a des questions sur le déroulement du vote. Et là, c'est vrai que l'afflux inattendu des votes par correspondance peut poser des questions sur la modalité même du dépouillement. On se souvient bien sûr du cas de l'élection de 2000 et du cas de la Floride. Mais oui, là, c'est une opération politique qu'a menée Donald Trump. Ce qui est surprenant, c'est qu'on en soit surpris, parce que le fait qu'il conteste le résultat, c'est pas une surprise, il l'avait
c'est
même
ce qu'il
dit
avait
par
dit depuis
anticipation.
Des mois, oui.
Bon, donc d'une certaine manière.
Mais on pensait qu'il bluffait.
Oui, mais je pense que le bluff lui a permis d'obtenir ce qu'il souhaitait, à savoir que on voit bien aujourd'hui qu'il aura du mal à contester la réalité arithmétique du scrutin. Mais je pense qu'il a déjà obtenu d'instiller dans l'esprit, notamment de ses partisans, l'idée que quoi qu'il arrive, cette élection a quelque chose de faussé. Et voilà, en ayant mis ce mot de fraude dès le début, oui, pas de contestation, de fraude, cette élection qu'on veut nous voler, ben, le message est passé et je pense qu'une grande partie des Américains garderont toujours ce sentiment que cette élection leur a été volée, même si sur le plan arithmétique, il n'y aura pas de doute. Il en restera quelque chose et je pense que d'une certaine manière, ça pèsera sur le mandat de Joe Biden à son insu. Mais voilà, cette idée que dire cette élection a été volée, voilà, au moins Donald Trump aura obtenu cet impact psychologique, oui, qu'il, oui, espérait.
Et c'est vrai que le mur républicain, vous l'évoquiez à l'instant, Ivan Trippenbach, est en train de se fissurer. On apprend par exemple à l'instant que le républicain Mitt Romney, qui est opposant, c'est vrai, au sein du camp républicain à Donald Trump, mais il dit publiquement « Trump a tort de dire que l'élection a été truquée ». Ce sont ces déclarations qui nous parviennent à l'instant. 18h39, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre édition spéciale US.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine, et Julien Bugier.
Oui, 18h41, on est toujours ensemble dans le débat des grandes voix spéciales US, et on va retourner aux États-Unis, à New York précisément, où nous attend toujours Xavier Yvon, correspondant permanent d'Europe 1. Vous avez, Xavier, des informations sur la prise de parole qu'on attend ce soir de Joe Biden.
Oui, alors elle est prévue à 20h, heure de la côte Est, ça veut dire 2h du matin pour vous en France. C'est un journaliste qui suit la campagne
on
Biden
couché,
qui...
Hein.
Non, c'est un journaliste. Moi non plus. C'est un journaliste qui suit la campagne Biden qui a donné ces informations. Alors, selon lui, Kamala Harris, donc la candidate à la vice-présidence, va s'adresser en premier. Et ensuite, ce sera Joe Biden. Kamala Harris, qui, je vous rappelle, si tout se confirme, sera la première femme de couleur à accéder au poste de vice-présidence des États-Unis. Voilà, ce sera très certainement depuis le Convention Center de Wilmington en Delaware, c'est la petite ville où habite Joe Biden, et peut-être, comme ses prises de parole précédentes, devant un public dans sa voiture, puisque vous savez qu'il organise tous ses prises de parole avec des drive-in. Je voulais juste ajouter une précision à ce qui a été dit tout à l'heure sur le plateau, sur l'histoire de la concession de la défaite par le perdant d'une élection. En fait, ça, c'est pas une règle, elle n'est pas inscrite dans la loi ou dans la
Constitution.
C'est la tradition, mais ce qui est inscrit dans la loi, ce qui est la règle officielle, c'est que pour être élu, un candidat doit atteindre les 270 grands électeurs. Ça, une fois que ce sera fait, Joe Biden sera le président élu, que Donald Trump reconnaisse ou non sa défaite.
Bien, merci de cette précision, Xavier. Vous restez évidemment toujours branché avec nous en direct de New York. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des informations supplémentaires. Yannick Mirer, politologue et spécialiste des États-Unis, qu'est-ce que Joe Biden peut dire ce soir? Est-ce qu'il peut le dire? Je suis gagnant, je suis le nouveau président?
Il peut le dire en fonction effectivement de ce qui est peut-être attendu, des résultats qu'on pourrait avoir sur certains États. Parce que je vous rappelle juste une petite chose, c'est qu'au niveau du vote populaire, pour les États dont on connaît déjà le résultat, je pense par exemple à la Californie, le compte se poursuit. C'est-à-dire, tous les bulletins n'ont pas été épuisés.
Oui.
Donc c'est-à-dire que le vote populaire va être encore plus important. Et c'est une élection historique de ce point de vue, puisque
mobilisation,
on bat des records de mobilisation, de participation. Ce qui d'ailleurs jette un nouvel éclairage sur les conclusions un peu hâtives consistaient à dire « pauvre démocratie américaine », etc. etc.
Ouais.
Finalement, bon, il y a de la tension, il y a de la polarisation, des excès, mais en même temps, les Américains se sont mobilisés, même si c'est vrai qu'ils sont partagés, très partagés, y compris en famille, sur ce qui se passe. Mais il n'est pas exclu, et c'est bien les atouts de M. Biden, en tout le cas ce que présomption de qu'on peut lui faire par avance, c'est que son caractère, sa trajectoire, aussi son âge, au fond, et les nécessités...
Il a 77 ans.
Oui, mais bientôt 78. Je crois avant peut-être janvier, s'il est élu. Peu importe, mais les nécessités aussi exigées par les dysfonctionnements de la vie publique américaine pourraient l'amener à être un vecteur d'apaisement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que une large majorité d'Américains attend.
Bien. Alors, sur la mobilisation, peut-être Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, il y a un élément qui a été assez peu souligné, c'est le vote populaire et l'adhésion qu'a suscité Donald Trump. C'est vraiment la surprise. Une fois de plus, il crée la surprise, Donald Trump. Même s'il perd ce soir, 69 millions d'Américains, je crois, ont voté pour lui. C'est plus qu'Obama lors de son élection. C'est
oui,
historique.
Et c'est 4 millions de plus que ce qu'il avait recueilli lui-même lors de sa victoire en 2016. Alors, certes, Joe Biden, lui, va faire quelques 12 millions de plus, enfin, fait déjà 12 millions de voix de plus qu'Hillary Clinton, mais Donald
mais
Trump
confirme,
fait plus.
Ça confirme l'idée qui est de dire, mais on le voit bien avec les résultats et puis ce duel très serré entre Trump et Biden, mais ça confirme l'idée que l'élection en 2016 de Donald Trump n'a pas été une erreur de l'histoire,
bien
ou
sûr,
n'a pas été un accident.
Oui, et ça veut dire que le Trumpisme existe dans la population américaine. En général, par définition, un président sortant avec l'usure du pouvoir est plutôt un peu sanctionné. On pensait beaucoup qu'il y a beaucoup d'électeurs qui allaient le quitter et qu'il n'y avait pas d'électeurs démocrates qui allaient voter pour lui. Or, cette fluidité électorale, elle existe aussi dans les deux sens. Et que c'est quasi 50% d'Américains qui votent Trump, qui ont voté Trump une fois, qui ont voté Trump une deuxième fois, et plus que la dernière fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans l'électorat de Trump, qu'on présente souvent comme un peu le candidat des hommes blancs, c'est précisément la seule catégorie où, semble-t-il, il est reculé, alors que son score a augmenté chez les Noirs, au sein de la communauté gay.
Un tiers des Latinos ont voté pour Donald Trump, aussi incroyable que cela puisse paraître.
Oui, alors Latinos, parce qu'il y a aussi les Cubains de Floride, qui par tradition ont toujours été plus républicains. Mais c'est vrai que Donald Trump a progressé au sein de ce qu'on appelle les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, etc. Ce qui montre bien que finalement, on ne peut pas réduire le vote Trump à la caricature
oui.
que l'on en fait, y compris chez nous en France.
Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'Opinion. D'abord, c'est quoi le trumpisme? Et est-ce que selon vous, il va survivre à Donald Trump?
Alors, c'est toute la question. Effectivement, le trumpisme, on peut le décrire comme une sorte de populisme conservateur qui inspire certains partis d'ailleurs en Europe populistes. Je pense notamment au Rassemblement National en France. On avait des élus de Marine Le Pen
et
qui s'inspiraient.
Et Viktor Orban aussi en Hongrie, hein, qui a dit ce soir que oui, il y avait de la triche aux États-Unis en défaveur de Donald Trump.
Oui,
voilà un soutien européen.
Par exemple, et des élus RN font de même en France en relayant des fake news autour des fraudes prétendues dans les bureaux de vote américains. Donc le trumpisme, c'est un populisme assumé. Donc là, on rentre complètement en contradiction avec les stratégies adoptées en Europe d'une sorte de normalisation. Mais on retrouve exactement les mêmes fractures. Fracture territoriale, un électeur démocrate sur quatre seulement vit dans une petite ville ou une zone rurale. Fracture ethnique très propre à la société américaine. Et puis fracture liée au diplôme, au niveau de qualification. Ces fractures existent aussi en Europe. On a les mêmes. On a les mêmes dynamiques populistes qui émergent dans l'opinion, dans les enquêtes récentes sur la société française.
Oui.
Donc, on a beaucoup de leçons à tirer de la permanence du phénomène trumpiste.
Alors, vous restez avec nous, évidemment, et dans un instant, on s'interrogera sur la suite de ce scrutin. Peut-il y avoir des mouvements d'humeur, par exemple, de la part des soutiens de Donald Trump dans les jours qui viennent? 18h47, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine et Julien Bugier.
Oui, 18h50, on est toujours avec le débat des grandes voix spéciales US et cette annonce donc qui nous est parvenue il y a quelques instants. Joe Biden va bien s'adresser à la nation américaine ce soir. Les rapports de force sont en train de lui être favorables. Il est désormais en tête avec toujours 253 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Et la Pennsylvanie sera déterminant une fois que le dépouillement sera terminé. 20 grands électeurs en jeu. Si Joe Biden emporte la Pennsylvanie, Yannick Mirror, il est président des États-Unis.
Il est élu. Fin du match.
Et on le saura dans les minutes ou les heures qui viennent, normalement.
Bah, on espère, parce que le monde, et surtout les Américains aussi, espèrent la fin de ce à quoi on assistait depuis 4 ans, même si ça continuera avec des spasmes plus ou moins forts. D'une part, l'interregnum entre novembre et janvier, qui est une bizarrerie qui reste depuis 2 siècles aux États-Unis, et qui sera sans doute un moment de confusion. Peut-être donc aussi de chaos,
oui.
Pour ce qui est des recours et des litiges. Je ne suis pas très certain, au fond, que ça aille très loin et que ça puisse changer quoi que ce soit. À partir du moment où la Pennsylvanie, les résultats sont clairs, le dépouillement est clair, il n'y a pas de machine à faire.
Xavier Yvon, toujours en direct avec nous, correspondant permanent d'Europe 1 à New York. Xavier, question, faut-il craindre dans les jours qui viennent, si les résultats se confirment en faveur de Joe Biden, les mouvements d'humeur de la part des soutiens de Trump?
Bah, c'est toute la question. Ça va dépendre d'abord de l'attitude elle-même de Donald Trump. Hein. On en a beaucoup parlé. On a vu hier, il y a eu un incident autour du centre de dépouillement de Philadelphie, qui est au centre de convention de Philadelphie. La police a arrêté 2 hommes en armes qui avaient garé leur Hummer juste à côté et qui, visiblement, avaient l'intention de s'attaquer au centre de dépouillement. Donc, vous voyez que les paroles des hommes politiques sont parfois déclencheurs d'actes. L'enquête est encore en cours, oui. Hein, de la police de Philadelphie. Mais il y a ce genre d'incident, évidemment, que tout le monde craint. Il y a des armes en circulation aux États-Unis, on peut les porter facilement dans beaucoup d'États. Beaucoup de supporters de Donald Trump en ont. Voilà, donc il y a cette crainte-là d'incident. Il y aura pas, on ne va pas dire qu'on va vers la guerre civile parce que ce n'est pas ça qui va arriver, mais de toute façon, c'est sûr qu'on a un pays qui est extrêmement divisé et qui ne se comprend plus. Moi, j'ai parlé avec mon voisin hier, qui est un démocrate, hein, parce qu'on est à New York, et qui disait « je ne peux pas me réjouir de la victoire de Joe Biden » parce qu'il pensait qu'il allait évidemment gagner. Je ne peux pas me réjouir, c'est quand j'ai 69 millions de mes concitoyens qui votent pour Donald Trump. Je comprends qu'ils aient voté pour lui il y a 4 ans, quand on est désespéré, qu'on a quelqu'un qui nous promet la Lune. Mais 4 ans après, avec le bilan qu'il a, avec tous les mensonges, avec tout ce qu'il a fait, il dit « je ne les comprends pas ». Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment frappé. Il disait « voilà, ce pays n'est plus uni, il ne sera peut-être plus jamais. Si jamais il y a un nouveau 11 septembre à New York, le pays ne sera pas derrière New York. Il y aura la moitié du pays qui dira que New York aille se faire voir ».
Bien, très intéressant, c'est Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Ce sera d'ailleurs le premier chantier, au-delà de l'économie, au-delà de la diplomatie, le premier chantier de Joe Biden, si son élection se confirme. Essayer de retisser le lien entre ces deux Amériques qui aujourd'hui se détestent.
Oui, et la réaction du voisin de Xavier Yvon est de ce point de vue-là très intéressante quand il dit « je ne comprends pas qu'on vote pour Donald Trump ». C'est pas uniquement « je ne suis pas d'accord » ou « je combats politiquement leur ». Donc c'est « je ne comprends pas qu'on puisse voter pour quelqu'un d'autre ». Bon. Et je pense que cette difficulté aujourd'hui des États-Unis, il n'y a pas que les États-Unis, on voit ça aussi, y compris chez nous, c'est l'incapacité d'un camp à accepter l'existence d'un autre camp.
Oui.
Et c'est vrai qu'on juge beaucoup le durcissement du ton de la vie politique américaine à partir des foucades, des excès de Donald Trump, ce qui est incontestablement une évidence. Mais symétriquement, il y a aussi, on assistait à une forme de radicalisation de la gauche américaine, plus sur le plan culturel, hein, faut pas qu'elle nuit comme tout le... toute la thématique de la cancel culture qui vient de là et qui est très très forte aux États-Unis, qui s'est traduit aussi sur le plan électoral, parce qu'on parle beaucoup de la présidentielle, mais quand on regarde aussi l'élection pour le Sénat ou pour la Chambre des représentants, on voit que inversement là, les démocrates ont eu des revers importants. En gros, ils n'ont pas fait le raz-de-marée qu'ils espéraient. Pourquoi ? Parce que souvent, leurs candidats étaient sur des lignes plus dures que n'était Joe Biden au niveau national. Donc, un profil plus centriste, plus central, comme celui de Joe Biden, a été capable de séduire des électorats et devenir majoritaire dans le pays, mais qu'une forme de radicalité démocrate, elle, reste minoritaire dans le pays. Et ce choc des deux radicalités est effectivement un des grands défis auquel il devra s'attaquer en cas d'élection.
Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'Opinion, un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et puis la montée des populismes partout à travers la planète, notamment évidemment en Europe. On dit souvent que les États-Unis ont 15 ans d'avance sur la vie politique française. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui nous attend dans 10 ans ?
Espérons pas, quand même, parce que Donald Trump, malgré tout, représente quand même c'est l'illustration de cette extrême polarisation et de plusieurs courants complotistes, que ce soit anti-science, on l'a vu dans sa gestion de la crise sanitaire, que ce soit anti-vérité, anti-fait aussi, puisqu'il a mené en fait jusqu'au bout la logique consistant à faire de la politique par le dire. La parole devient politique. Il propose un récit.
Et la parole devient vérité, d'ailleurs.
Exactement. Il propose un récit qui est séduisant, qui correspond en fait aux attentes de toute une partie du pays. Et ça devient de la politique. Ça devient quelque chose de palpable et pour lequel qui fait se déplacer les gens pour aller voter pour lui.
Un dernier mot, peut-être, Guillaume Tabar. Est-ce que ça fait nos affaires, à nous, Français, cette élection de Joe Biden ?
Ah, écoutez, ça dépend de quel point de vue on se place. Disons que la présidence Trump avait permis à Emmanuel Macron en France et à l'Europe de manière plus globale de reprendre une sorte de leadership du monde occidental, ou que ce soit face à des crises, je pense par exemple face à la Turquie, oui, face à ce qui se passait aussi au Moyen-Orient. Le retrait américain, qui n'est pas le propre de Trump, hein, déjà c'était Obama qui avait engagé aussi le retrait des États-Unis de la scène internationale, mais qui était accentué forcément sous Trump, ce qui fait que l'Europe avait perdu l'idée que les Américains étaient une sorte de bouclier, notamment sur le plan de la défense pour l'Europe. Et quelque part, la présidence Trump forçait les Européens à essayer de réfléchir à devenir une puissance, notamment sur le plan militaire.
Donc là, c'est le retour du multiculturalisme du...
Voilà, alors, Biden, ce n'est pas non plus le retour aux gendarmes du monde. Hein, les démocrates ont aussi une longue tradition d'isolationnisme.
Multilatéralisme, pardon.
Mais c'est vrai quand même que l'argument de dire « avec Trump, on est obligé de s'organiser », cette pression-là négative va moins s'exercer sur l'Europe et ça peut faire baisser la garde dans certains pays européens.
Bien, merci à tous les trois. Le débat des grandes voix spéciales US du vendredi. Vous restez avec nous, 18h57. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale avec le journal et les dernières infos made in US. A tout de suite.
Europe 1. Europe 1. Europe 1. The American Choice.